Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagémo à voix haute, épisode du 10 mars 2024. Aujourd'hui, en deuxième partie d'émission, dans les coulisses du livre, je reçois Guédeline Desrosiers, autrice, conférencière, formatrice et entrepreneur. Virginia Houle de la librairie Le Repère à Granby nous propose ses coups de cœur de libraire printanier et on terminera l'émission avec les actualités littéraires. Mais d'abord, en première partie, à Dis-moi ce que tu lis, je rencontre une enseignante de sixième année de l'école Sainte-Claire à Longueuil, Marie Germain, et quatre élèves de sa classe, Léo Moffat, Laetitia Épard, Margot Cabana et Joëlie Diouf. Et on inaugure une toute nouvelle chronique, une tribune littéraire avec Raphaël Baillargeon, 13 ans, qui nous dit ce qu'elle pense de la série Fanny Cloutier. Encore une fois, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse.
Dis-moi ce que tu lis.
Dis-moi ce que tu lis. C'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui lisent des livres jeunesse. Aujourd'hui, on rencontre Marie Germain, enseignante en sixième année à l'école Sainte-Claire à Longueuil, et quatre de ses élèves, Léo Moffat, Laetitia Épard, Margot Cabana et Joëlie Diouf. Bonjour à vous et bienvenue à Imagémo à voix haute.
Bonjour.
Salut. Vous êtes en classe à Longueuil et nous, on est en studio de l'autre côté du fleuve. Marie, on va commencer avec vous. Votre école fait partie du centre de service scolaire Marie-Victorin. Qu'est-ce qu'on peut dire de votre milieu scolaire de l'école Sainte-Claire?
C'est une école que je suis tombée en amour depuis 6 ans que je suis là. Une école qui est très un milieu très hétérogène, donc on retrouve des gens d'un peu partout, de tout milieu. Beaucoup d'artistes aussi, à même l'école, là, des parents artistes, donc ça rend les classes très, très agréables. On a aussi beaucoup de vie à l'école, une vie scolaire qui est là, beaucoup d'activités, les parents s'impliquent, donc c'est vraiment un très beau milieu.
Un beau milieu de vie, ça c'est intéressant. Marie, moi je vous ai vu la première fois en mai dernier au congrès de mots et de craie. Vous êtes une enseignante et une personne passionnée. Vous êtes investie, positive, dynamique. Vous êtes d'ailleurs pas mal active sur les réseaux sociaux, notamment sur votre fil Instagram qui s'appelle « En première classe ». J'aime beaucoup le jeu de mots. Et vous avez tout récemment signé sur le site « Les ateliers d'écriture et de lecture au primaire » un très, très bon texte qui s'intitule « Puissante vague » ou « Comment transmettre l'amour de la lecture ». Dites-moi, Marie, vous enseignez depuis combien de temps et comment vous faites, vous, pour transmettre cet amour de la lecture à vos élèves de sixième année?
Bien, première, merci. En fait, ça fait 20 ans que j'enseigne déjà.
Et 20 ans!
Oui! Mais 20 ans de passion, 20 ans de plaisir avec les enfants, 20 ans aussi à améliorer ma pratique pour rendre les choses plus agréables, plus efficaces, plus concret pour les enfants, pour que les apprentissages restent et qu'ils restent pour la vie. On dit qu'on veut que les enfants deviennent des lecteurs pour la vie, mais on veut qu'ils deviennent des humains pour la vie. Puis pour moi, c'est vraiment super important. Donc, l'amour de la lecture, pour moi, c'est là depuis que je suis toute petite. Je viens d'une très grosse famille, donc je lisais des livres à mes frères et mes sœurs là, depuis que je suis toute petite. Et c'était ma façon de m'en occuper. Donc, ça a toujours fait partie de moi de changer mes voies, de pouvoir vraiment rendre l'histoire vivante. Puis j'ai transmis ça, bien sûr, dans mes classes. Sans compter qu'on fait beaucoup de choses là, pour je fais beaucoup de choses pour que les enfants puissent se rendre compte que la lecture, c'est vital. Donc, elle est au cœur même de la classe. Je n'ai pas de coin lecture. Ma classe est un coin lecture. Tu as pu le voir quand tu es venu. Donc, c'est ça. Donc, pour moi, c'est vraiment important que les enfants puissent se rendre compte que c'est comme un grand café littéraire pour moi, mon local, et puis que ça soit un local pour tout le monde. Donc, c'est une place pour lire. Je m'assure d'avoir aussi lu mes livres que je présente à mes élèves. Donc, j'ai une très grande bibliothèque remplie de super romans, super albums, des documentaires. Donc, on essaie d'avoir une variété, mais je les ai tous lus, ces livres-là, ce qui fait qu'on peut avoir des discussions et des échanges littéraires très, très, très riches.
Ouais.
Pour les amener plus loin. Donc ça, c'est une des choses qu'on fait. On a aussi un babillard littéraire qui fait en sorte que ben, les enfants peuvent écrire t'sais, des phrases qu'ils aiment de leurs livres. Bon, on a une place où est-ce qu'ils peuvent afficher leur coup de cœur littéraire. Donc c'est vraiment un babillard littéraire, mais c'est pas mon babillard, c'est notre
C'est
babillard
ça
littéraire.
appartient à tout le monde.
Exactement. Donc, il y a un blog littéraire aussi qu'on travaille ensemble dessus. Là, il est tout frais, tout chaud. Donc, un blog littéraire que l'on a concocté en classe avec des critiques de livres que l'on a lus. Donc, c'est ça. On met vraiment la lecture au cœur même de la classe dans tout ce qu'on fait.
Ah ben, moi, je suis allée dans votre classe, vous l'avez dit tantôt, puis j'ai rencontré des lecteurs passionnés, autonomes, des enfants allumés et surtout un climat de classe imprégné de respect, de bienveillance assez exceptionnel. Moi, je propose que, au moment où on est maintenant, je propose qu'on donne la parole à Théo, à Léo, à Laetitia, voyons, je suis toute mêlée là, dans mes noms, à Margot et Joélie. On va commencer avec Joélie, si vous voulez bien, parce que vous avez préparé des livres que vous avez beaucoup aimés. Joélie, toi, tu nous parles de quel livre?
Bonjour, moi je vais vous parler de Anne à Maison Pignon Vert par Lucie Maud Montgomery. Comment je dis?
Ça, c'est difficile,
Ah.
hein? Lucy Maud Montgomery.
Okay. Montgomery.
Oui, voilà. Ça, c'est un classique, hein, canadien, un livre qui existe depuis très, très longtemps, au Canada.
C'est un vraiment vieux livre et je suis pas habituée vraiment à faire ce genre de lecture, mais. Cette classe m'a vraiment poussée à faire des lectures différentes puis à élargir mes horizons littéraires. Puis j'ai vraiment trouvé plein de perles dans ce livre-ci.
Oui, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce livre-là? C'est l'histoire de qui, de quoi?
C'est l'histoire de Anne. C'est une orpheline. Elle est vraiment créative. C'est une artiste. Puis elle cherche vraiment sa famille. Ses parents sont morts quand elle était vraiment jeune. Et elle se trouve chez. Matthew et Marilla, qui sont des frères et sœurs, ils sont un peu grincheux, mais ils ont vraiment un cœur tendre.
Ouais.
Ils deviennent de plus en plus proches et c'est juste vraiment une belle histoire d'amour et d'amitié.
Oui,
Il y a
hein?
plein de péripéties là-dedans. J'ai vraiment adoré ce livre.
Puis, si tu en parlais de Anne, c'est un personnage, c'est particulier parce que ça se passe il y a longtemps, quand même, dans le temps, c'est pas maintenant, mais qu'est-ce que tu lui donnerais comme qualité? Dirais-tu qu'elle est, mon Dieu, elle est plutôt impulsive, elle fait des gaffes aussi, hein?
Oui, ben, elle est un peu maladroite, c'est sûr, mais elle est aussi vraiment très intelligente. C'est quelque chose que j'aime beaucoup de ce personnage. Elle est aussi vraiment créative, elle écrit plein d'histoires, puis c'est vraiment une grande artiste.
Elle est généreuse aussi, hein?
Oui, vraiment.
Tu le conseillerais à qui?
Ben, moi, je conseillerais ce livre à des enfants de mon âge, mais il faut quand même être avancé en lecture parce que le vocabulaire est quand même riche,
Ouais.
puis aussi, ben, l'histoire est quand même difficile à comprendre.
OK.
Mais c'est quand même doux comme histoire. C'est quand même, on embarque vraiment bien. Mais je conseillerais vraiment ce livre à peut-être 11, 12, 13 ans,
OK.
des jeunes
Puis,
de mon
tu as
âge.
choisi un court extrait hein, que tu voudrais nous lire. Joélie, on t'écoute.
Le monde passa un hiver agréable, entrecoupé par les études et par mille occupations diverses. Pour Anne, les journées s'égrenaient doucement comme mille perles d'or sur le collier de la vie.
Oh, c'est beau, c'est bien écrit.
Merci.
J'aime beaucoup ça, ce vocabulaire-là. Je te remercie, Joélie, de nous
Merci beaucoup.
avoir rappelé cette lecture-là. Ça existe depuis très longtemps, mais c'est ce qu'on appelle un classique. Alors, on va aller voir maintenant, Margot. Margot, toi, de quel livre tu vas nous parler, Margot?
Bonjour, moi je vais vous parler du livre Réfugié.
Mais on t'écoute.
C'est un livre écrit par Alan Gratz.
Oui.
Et c'est ça, c'est l'histoire de trois personnages
qui sont réfugiés pour trois différentes raisons, à trois différentes années. Puis chacun, ils doivent quitter leur pays et pour aller dans un autre pays pour se protéger de plein de différentes choses. Et ils s'apprêtent à vivre plein d'aventures.
Alors, moi, j'ai regardé un petit peu, là, il y a, tu nous disais trois personnages, trois dates différentes. Alors, Joseph, qui est juif, qui vit en Allemagne nazie, donc dans les années 30, un petit peu avant la Deuxième Guerre. Isabelle, qui quitte Cuba en 94, et Mahmoud, qui, lui, quitte la Syrie en 2015, tu l'as dit, pour des raisons complètement différentes. Qu'est-ce qui rapproche ou qu'est-ce qu'il y a de commun ou de semblable à ces trois personnages-là qui sont tous les trois réfugiés?
Dans chacune de leurs aventures, ils doivent partir en bateau pour un long voyage. Puis ils arrivent plein de comment je pourrais dire ça,
Des
de
obstacles, des dangers.
des obstacles. Oui.
Ouais.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça qui fait que comme ils se ressemblent un peu.
Ouais. C'est plus un roman. Alors, toi, tu le conseilles à quel genre de lecteur ou à qui?
Je le conseillerais à des gens plus de mon âge et pas trop jeunes parce que c'est vraiment des histoires dures quand même à lire. Puis il y a des mots comme plus compliqués à comprendre. Fait que les gens d'environ 11, 12, 13 ans.
OK, donc ça prend une maturité là, pour lire ça. Parce
Ouais, vraiment.
qu'effectivement, il leur arrive des aventures, mais des affaires qui sont pas agréables non plus, hein?
Ouais, vraiment.
Ouais. Margot, est-ce que tu as préparé toi aussi un extrait? As-tu choisi un petit bout que tu voudrais lire? On t'écoute.
En entendant une femme crier, il se mit à courir. Il avait l'impression d'être sorti de son corps et de se regarder se pencher par-dessus le bastingage. Un homme à la mer! Cria un des passagers. La sirène retentit. Le père de Joseph s'était jeté à l'eau.
Aïe, 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 aïe. Tu sais, ce qui est terrible, c'est que ça arrive encore, même maintenant, ces histoires-là. C'est ça qui est terrible. On dirait que les êtres humains, on n'apprend pas, hein. Merci beaucoup, Margot, pour ta suggestion. Merci. On va aller voir Laetitia maintenant. Laetitia, toi, qu'est-ce que tu nous suggères comme lecture?
Écrit par
Laetitia, est-ce que tu veux parler? Oui, tu veux t'approcher pour qu'on t'entende bien. L'œil du loup. Écrit par Daniel Pennac, oui. Puis qu'est-ce qu'on peut dire de L'œil du loup de Daniel Pennac?
L'histoire raconte une aventure entre deux personnages, Afrique et un loup. Pour vous mettre en contexte, Afrique est un jeune garçon avec un incroyable talent, celui de parler aux animaux. À travers leur regard, on voit défiler leur vie avant leur rencontre au zoo. Malgré leurs différences, ils se rendront compte qu'ils ont plusieurs points en commun.
Ah, oh, qu'est-ce qu'ils ont comme point en commun?
Je trouve qu'ils sont les deux, ils sont empathiques.
Ils sont empathiques, ça veut dire qu'ils sont capables de se mettre à la place de l'autre. Parce qu'ils ont des vies, si je comprends bien, le loup est dans le zoo et le loup, lui, il est borgne, hein, ça veut dire qu'il ne voit que d'un œil.
Oui,
C'est
exactement.
ça. Puis le petit garçon, lui, il vient d'Afrique. Puis qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qu'ils ont de différent?
Un petit peu leur attitude.
OK.
Comme Afrique, il est plus. Il parle moins, je trouve. Il est plus discret, alors que
Ouais.
le loup, il dit plus ce qu'il
OK.
pense.
Puis qu'est-ce que tu as aimé, toi, dans ce livre-là?
J'ai beaucoup aimé les deux histoires en parallèle.
C'est intéressant quand un livre est construit de cette façon-là, hein. Moi, j'aime beaucoup les livres où est-ce qu'il y a effectivement deux histoires qu'on suit, puis quand on peut les réunir aussi. Ça, c'est intéressant, ça. Tu le conseilles à qui, toi, L'œil du loup de Daniel Pennac?
Je conseillerais aux gens de mon âge, mais c'est pour tous les âges, parce qu'il y a plusieurs illustrations, il y a des mots riches et il y a une très bonne structure dans le roman.
Ouais, j'ai remarqué, je sais pas quelle édition tu as lu, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'éditions de L'œil du loup de Daniel Pennac, mais je sais pas si tu savais ça, puis c'est une information pour ta classe aussi. Tout récemment, mon Dieu, la date, qu'est-ce que c'est que je te trouve ça? Décembre 2023, ça vient d'arriver, chez les éditions Nathan, ils ont sorti une bande dessinée inspiré de l'histoire de l'œil du loup de Daniel Pennac, et c'est illustré par Mathieu Sapin. Alors, je vous conseille d'acheter ça. C'est intéressant de lire la même histoire avec un traitement de BD, puis le roman aussi. On pourrait faire des comparaisons. Voilà pour le conseil. Laetitia, merci pour la suggestion. On va aller voir Léo maintenant. Léo, toi, qu'est-ce que tu as choisi de nous présenter comme livre? De quoi tu nous parles?
Moi, j'ai choisi « Le garçon au sommet de la montagne » par John Boyne. Et l'édition, c'est Gallimard Jeunesse.
D'accord. Ça parle de quoi, ça, ce livre-là, « Le garçon au sommet de la montagne »
En fait, ça parle de Pierrot, qu'il habite à Paris,
ouais.
Mais la guerre s'en vient. Donc, ses parents l'envoient à sa tante éloignée qui habite en Allemagne.
OK.
Mais elle a un mari quand même mystérieux. Puis, il est très...
Il est très bizarre ou il est très...
Ouais, il est bizarre. Puis, cet homme-là, c'est Adolf Hitler.
Aïe, aïe, aïe! On découvre ça. Est-ce qu'on découvre ça rapidement dans le roman que c'est Adolf Hitler?
On découvre vraiment lentement, mais John nous donne des indices petit à petit que c'est le Führer, en fait.
Aïe, aïe, aïe! Mais là, ça veut dire que Pierrot, il vit dans la maison du Führer Adolf Hitler? Je veux pas que tu nous dises la fin. Je veux pas que tu nous dises s'il va finir par rester là, mais on espère qu'il va finir par s'en aller de là.
Ouais.
On le souhaite, hein? Puis, et dis-moi, est-ce que toi, tu as préparé un court extrait que tu voudrais nous lire de ce livre-là?
Oui. L'extrait, c'est « L'immense cachet un numéro tatoué sur sa peau. Et lui, qui peinait à vivre avec le souvenir de ce que sa famille avait subi, avait ce rappel éternel sous les yeux, quoi qu'il arrive. »
Hey boy! Vraiment, vous nous faites des suggestions de lecture qui sont passionnantes. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Marie, aussi, vous aviez une suggestion à nous faire, hein?
Oui!
Oui!
En fait, c'est un album. C'est celui de maintenant une grande amie, Catherine Lapointe,
ouais.
Que j'ai rencontrée pour la première fois l'été passé. On se connaît depuis très, très longtemps et elle a écrit ce superbe album-là qui parle un peu de sa réalité de classe. Puis je pense que c'est ça qui m'a touchée, c'est de voir cette réalité de classe-là puis comment ils vont faire... c'est une action au-delà de la classe.
Oui, c'est l'album Copain, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça, exactement, Copain, qui est magnifique. Puis une des images et phrases que j'aime, c'est le mot donné, écrit en pain. Il faut vraiment le lire pour comprendre comment c'est puissant, ce livre-là.
C'est Olivier Chénet qui fait les illustrations. J'ai publié chez deux. Écoutez, moi, je voudrais vous remercier tous les cinq d'avoir pris le temps de parler de l'importance de la lecture avec nous aujourd'hui. Je voudrais remercier Léo Moffat, Laetitia Épard, Margot Cabana et Joëlie Diouf d'avoir pris ce temps-là avec nous. Merci Marie-Germain de proposer à vos grands et à vos grandes un bateau sûr où la vague de la lecture les happe, les porte, les fait grandir, réfléchir, discuter, prendre leur place dans la vie. Merci d'en faire des lecteurs pour la vie puis des meilleurs humains. Merci beaucoup à vous cinq. Au plaisir.
Merci.
Merci.
Mon nom est Delina. J'ai 7 ans et j'aime lire à mon petit frère parce que une fois je lui ai lu un livre, puis au cours de la lecture, il a dit que ce cadeau est vert, ce cadeau est rouge, puis moi j'ai ri.
Je m'appelle Abdemoui, j'ai 9 ans. J'aime lire Yu Sarri. Parce que j'aime sortir Yu Sarri.
Tribune littéraire, voici ce que j'en pense.
On inaugure aujourd'hui une toute nouvelle chronique, une tribune littéraire qui est offerte à des jeunes du secondaire ou de la fin du primaire. Une tribune littéraire qui leur permet de dire ce qu'ils pensent d'un livre ou d'une série pour notre plus grand plaisir. C'est Raphaël Baillargeon qui brise la glace. Bonjour, Raphaël.
Bonjour.
Raphaël, tu as 13 ans. Tu étudies en deuxième secondaire à l'école secondaire de Pointe-aux-Trembles, l'ESPAT, et tu es au profil multisport. Dans ton groupe, il y a 6 filles, 22 garçons, tous des élèves qui bougent et qui profitent des 3 périodes de plus d'éducation physique sur l'horaire de 9 jours que les autres étudiants. Tu pratiques également la natation de compétition avec le groupe CAPI. Tu y consacres une douzaine d'heures par semaine et tu t'intéresses aussi à l'histoire, en plus d'être une grande lectrice. Aujourd'hui, Raphaël, c'est à toi qu'on propose cette tribune littéraire. Tu nous parles de quoi?
Donc aujourd'hui, je vais vous présenter « Les tombes désolées » Fanny Cloutier, une série écrite par Stéphanie Lapointe, qu'on a connue au début, était la grande gagnante de la deuxième édition de Star Academy en 2004.
Ouais.
Elle a aussi joué dans des séries comme Le Négociateur en 2004. Elle a publié d'autres albums que Fanny Cloutier.
Ouais.
Et elle a aussi été de la distribution du film Horror en 2005.
Mm-hmm.
Et aussi, elle a fait beaucoup de choses. Elle a partagé la scène de l'Olympia de Paris avec Isabelle Boulay.
Oui, alors donc c'est aussi une chanteuse. Et
ouais,
comme ça qu'on l'a connue, mais c'est une autrice aussi.
Oui. Donc, en 2018, elle a publié les 2 premiers tomes de Fanny Cloutier avec Les Malins.
Mm-hmm.
Puis, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui.
Good.
Donc, en gros, Fanny Cloutier, ça commence avec l'année où j'ai failli rater mon adolescence. En gros, le tome parle de l'été de Fanny, où est-ce qu'elle doit aller vivre à Sainte-Laurette tout l'été, qui est la ville de sa tante côté maternel.
Mm-hmm.
Vu que son père part dans une convention d'inventeurs au Japon.
OK, puis ça fait pas son affaire.
Non, elle est vraiment pas contente parce que elle se sent trahie parce que son père n'y a jamais dit qu'elle avait d'autres familles parce que sa mère est morte malheureusement. Fait que genre, depuis que sa mère est morte, son père il a toujours dit que on est ensemble, il n'y a pas d'autres familles, on est vraiment juste nous deux.
Mm-hmm.
Fait qu'elle est vraiment pas contente parce que ça ne fait pas son affaire, parce qu'elle avait ses amis, puis là, elle se sent comme abandonnée, plus trahie, elle sent qu'elle abandonne plus qu'elle est trahie, ça ne fait vraiment pas... ça fait vraiment pas son affaire. Elle a vraiment pas.
Oui.
Elle a vraiment pas. Ensuite, je vais parler de cette histoire-là, parce que je me suis vraiment attachée à elle, parce que Fanny a majoritairement... Elle est quand même dans notre tranche d'âge, fait que c'est vraiment facile à comprendre.
Mm-hmm.
On peut facilement s'identifier à Fanny, puis on peut comprendre comment et pourquoi elle le vit, puis pourquoi elle réagit comme ça, parce qu'on a sensiblement la même âge.
Oui.
Ouais. Son livre, c'est vraiment comme un journal intime, c'est un scrapbook, ça ressemble un peu à ça. Elle met beaucoup d'illustrations parce que Fanny trouve ça plus facile de dessiner qu'écrire. Parce que
c'est comme son journal intime, hein? ce qu'on lit, c'est son journal, c'est ça?
Oui, c'est ça. Fait que t'as vraiment l'impression de tenir le journal de Fanny dans tes mains.
Ouais.
Le roman, il est très coloré, il est vraiment pétant de couleurs, il est vraiment agréable à lire.
Ouais.
Il est facile à lire surtout. Et c'est Marianne Ferrer qui a fait les illustrations, donc c'est vraiment, vraiment coloré et très beau.
Ouais.
Et ça rend la lecture vraiment plus légère et surtout divertissante parce qu'à chaque page, tu te demandes quelle couleur, quel ton de quoi on va parler.
Ouais.
Et c'est vraiment plus facile à lire qu'un roman juste en noir et blanc.
C'est ça, parce que les illustrations contribuent à faciliter la lecture de ça.
Voilà, c'est vraiment plus facile et c'est plus agréable selon moi.
Ouais.
Selon moi, le livre Fanny Cloutier, les 5 livres Fanny Cloutier, c'est vraiment les romans parfaits pour commencer la lecture pour un ado, mettons, si je peux dire ça comme ça. Quand même assez élevé, mais pas trop parfait, juste parfait.
Ouais.
C'est parfait pour genre les ados de genre 5e année à secondaire 1-2. Moi, je mettrais ça dans cette tranche-là parce que c'est vraiment plus facile et c'est quand même des longs textes, c'est quand même des gros romans, mais c'est quand même assez léger, fait que c'est vraiment cool.
Mm-hmm.
Puis en plus, Stéphanie Lapointe en a fait 4. Il y en a peut-être un 6e, on ne sait pas encore, mais il y a peut-être un 6e qui arrive. Fait que c'est vraiment vraiment cool.
C'est une série parce que, en fait, de l'un à l'autre, ce que tu me disais quand on s'était parlé l'autre fois, c'était que c'est comme une quête d'identité pour Fanny Cloutier. D'un livre à l'autre, il y a une intrigue qui est différente. Elle cherche quelque chose. Elle est, qu'est-ce que tu dirais d'elle comme qualité? Dirais-tu qu'elle est persévérante?
Elle est très persévérante et elle est capable de voir plus loin que le mal. Admettons, le mur du mal, admettons, est comme ça, c'est horrible. La majorité des personnes vont s'arrêter à « Ah, ça, c'est plate. » Elle, elle va voir « Ah, mais tantôt, si je fais ça après le mal, ça va faire beaucoup mieux, ça va faire du bien. » Puis elle sait qu'après, à chaque fois qu'il y a quelque chose de mauvais qui arrive, il y a quelque chose qui va arriver de meilleur après. Ça fait que ça, c'est vraiment le fun.
Elle a une belle maturité, en fait, on peut dire
oui,
ça.
Oui, elle, elle est très, très mature pour son âge, je trouve.
Ouais.
Et que la quête d'identité, c'est surtout le « Est-ce que je suis faite pour vivre à Montréal? Est-ce que je suis faite pour vivre à Sainte-Laurette? » Il y a beaucoup de... Est-ce que... Il y a beaucoup de... Attends, je ne sais pas comment dire. Il y a beaucoup de...
De qui cherche. Suis-je, en fait, elle cherche
oui,
qui
ça.
Elle est. Puis est-ce que la vie qu'elle a lui convient? Fait que ça, c'est intéressant parce que c'est une préoccupation que beaucoup de jeunes de cet âge-là ont. Écoute, et Raphaël, je te remercie pour cette première chronique, vraiment. T'as brisé la glace de splendide façon. Tu nous as donné le goût de lire ces 5 tomes-là, peut-être un 6e, de Stéphanie Lapointe. Donc, et sur le site de l'émission, on va retrouver tous les liens vers les titres de la série, les 5 qui sont sortis. Au plaisir, Raphaël, d'une prochaine collaboration. Merci beaucoup.
Mais de rien, il n'y a pas de problème. C'était vraiment le fun.
Merci.
Bonjour, je m'appelle Élie. J'aimerais vous présenter l'auteur Maurice. C'est un auteur que j'aime beaucoup, d'où les noms du livre s'appellent Lucky Luke. C'est un jeune homme qui tire 2 fois plus vite que son ombre, puis il y a 4 bandits qui sont en prison. Puis lui, à chaque fois qu'il s'évade, il les rattrape toujours. C'est plein de sortes d'aventures, c'est vraiment le fun.
Je m'appelle Victor, j'ai 11 ans. J'aime lire des livres de Naruto et Dragon Ball parce que ça me fait rire.
On se quitte pour quelques minutes, le temps d'une courte pause. Au retour, je reçois Guédeline Desrosiers. Virginia Hull nous présente ses coups de cœur de libraire à propos de printemps et de nature. Et bien sûr, il y aura des actualités rares. À tout de suite! On est de retour. Bienvenue en deuxième partie d'Imagémo à voix haute.
Je m'appelle Floralie, j'ai 7 ans. J'aime les documentaires parce que ça me fait voyager. Et aussi, j'aime les albums parce que ça me fait aussi voyager.
Dans les coulisses du livre.
Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Je reçois avec plaisir Guédeline Desrosiers, autrice, conférencière, formatrice et entrepreneur. Bonjour Guédeline.
Bonjour Marie.
Bienvenue à Imagémo à voix haute.
Merci, merci de m'avoir invitée.
Oh, c'est un plaisir. Guédeline, vous portez plusieurs chapeaux.
Oui.
Prenons le temps de vous présenter aux auditeurs. Vous êtes née en Haïti.
Oui.
Vous êtes arrivée au Québec à l'âge de 4 ans. Vous avez fait un bac en enseignement du français langue seconde et obtenu une maîtrise en éducation didactique de l'Université de Montréal.
Exactement.
Bon. Vous avez enseigné à Montréal 10 années. Vous avez fait de l'intervention en milieu pluriethnique et plurilingue. Vous avez fait de ça une spécialité.
Oui.
En 2014, alors que vous enseignez à temps plein, vous avez suivi une formation en gestion d'entreprise. Vous avez fondé votre entreprise, G. Desrosiers, et donc vous, qui traite de livres jeunesse, formation, accompagnement scolaire, en 2020. donc en plein cœur du confinement. Déjà ça, c'est quelque chose.
Oui.
La même année, vous étiez lauréate du prix RAF, c'est Regroupement Affaires Femmes dans la catégorie Éducation. Vous avez écrit, édité et publié 3 tomes de la série Lily Rose pour les petits et co-écrit le scénario de 2 films. N'oublie pas que je t'aime et Bienvenue dans la famille. Vous offrez également des conférences et des formations en gestion de classe sur la motivation, l'animation littéraire, l'interculturel, le leadership au féminin.
Oui.
On est essoufflés, hein?
Oui!
Et des services d'accompagnement scolaire, aussi bien aux parents qu'aux nouveaux enseignants.
Oui.
Est-ce que l'enseignement, le contact quotidien avec les enfants, est-ce que ça vous manque?
Non, ça ne me manque pas parce que je me suis arrangée pour être en contact avec les enfants, parce que je me nourris de leur imagination, de leur créativité, de leur présence. Donc non, ça ne me manque pas parce que j'ai quand même continué à baigner dans le monde de l'éducation. Donc j'ai enseigné par moments sur une période plus courte. Mais je ne quitterai jamais le monde des enfants. Je suis là et j'y reste.
Ils sont pas loin, les enfants.
Non, ils sont pas loin.
Ça, c'est bon. À 14 ans, vous avez obtenu le prix Écriture pour votre texte « Le temps révélateur ».
Oui.
Qu'est-ce qui vous poussait à écrire à ce moment-là? Puis qu'est-ce qui vous pousse à écrire maintenant?
Le temps révélateur, ça date de très longtemps. C'est un enseignant de français qui nous avait proposé d'écrire un récit et puis qui avait retenu mon texte et qui l'avait proposé à un concours.
Ouais.
Et à l'époque, j'avais envie de parler de moi, du vouloir de performer. Et puis, je voulais pas être reconnue. Là, je me mets un peu sous la lumière. Puis, j'ai écrit ce texte-là pour un peu parler de quelque chose que je vivais, c'est-à-dire le fait de vouloir performer, mais d'avoir l'impression d'être jamais suffisante ou d'être jamais reconnue.
Hein,
oui, oui, exactement. Donc, oui. À l'époque, c'était pour ça. Aujourd'hui, j'écris beaucoup pour les plus petits, pour mon cœur d'enfant aussi, mais pour les plus petits, pour qu'ils puissent se reconnaître. Pour mettre de l'avant la beauté, la rêverie des enfants.
Oui, ah, c'est bien. Et quel lien faites-vous entre votre expérience, votre vie d'enseignante et ce que vous écrivez?
Mon expérience. Alors, si je parle des trois livres, Lily Rose, là, la collection,
ouais.
Je dirais que c'est des parcelles, là, c'est des bouts de mon enfance, surtout quand je suis arrivée au Québec parce que Lily Rose est dans la catégorie, je dirais, 4-8 ans. Donc, c'est mon enfance. Et je dirais aussi, c'est le reflet de mes élèves, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu observer quand j'enseignais en première année. Les rires des enfants, leur coquinerie, leur, des fois, mesquinerie. Mais je pense que c'est le reflet de mon enfance et des enfants que je côtoie au quotidien.
Ah oui, Alors, parlons de Lily Rose, cette petite fille espiègle, dégourdie, qu'on retrouve dans les 3 albums de votre série. Dans le premier, La Rencontre, qui est paru en 2021, Lily Rose rencontre son nouveau voisin, Théo.
Oui.
Dans le second, La Grosse Poule, Théo et Lily Rose vivent une aventure impliquant leur complicité puis leur amitié. Et dans le troisième, qui est paru lui aussi en 2023, Le Plus Beau des Cadeaux, il y a Noël qui approche et Lily Rose pense à ce qu'elle souhaite pour la prochaine année. On va avoir une belle surprise à la fin.
Tout à fait.
Tantôt, vous y avez fait allusion. Cette petite fille, qu'est-ce qu'elle a de vous, de votre enfance, de votre vie?
Je pense la spontanéité.
Ouais.
Je pense que Lily Rose, elle est drôle. Quand on lit le texte, il y a un petit sous-texte caché où Lily, elle va observer ce qui se passe autour d'elle. Il y a le côté observateur. De l'enfant. Je dirais aussi, Lily Rose, c'est une petite fille qui est différente. Elle n'est pas tant stéréotypée, fillette, comme on avait l'habitude de les voir dans les livres. Donc, elle est fougueuse, elle prend de la place, elle ne demande pas sa place, elle est là. Donc, je pense que dans ces traits de caractère-là, je me retrouve en Lily ou bien Lily se retrouve en moi.
Ouais.
Oui.
Puis, en fait, on retrouve aussi, parce que vous l'avez située, géographiquement,
oui.
On est à Montréal-Nord, définitivement.
On est clairement en ville et précisément à Montréal-Nord sur la rue où j'ai grandi à cet âge-là. Pour moi, c'était très important parce que pendant longtemps, en ce moment, je pense qu'il y a une belle lumière sur Montréal-Nord, mais pendant longtemps, il y avait un petit nuage gris qui flottait.
Oui.
Fait que pour moi, c'est important de mettre une belle lumière sur cet espace où j'ai grandi. Puis quand on regarde avec nos yeux d'enfant, on ne le voit pas, ce nuage-là, on voit juste le beau qui est autour de nous. Donc, c'est important pour moi de le dire, de le nommer, de le rappeler. Que...
Oui, c'est intéressant parce qu'on voit les enfants.
Oui.
On ne voit pas les adultes ou à peine. On devine un peu le père. On entend la mère, mais c'est la vie des enfants par les yeux des enfants.
Absolument, c'est un choix que j'avais fait depuis le début. Je voulais vraiment que le livre soit lu, raconté, vu à hauteur d'enfant, dans les yeux de Lily et de ses petits amis-là, de Théo dans ce cas-ci, puisque c'est Théo qu'on voit plus. Mais c'était vraiment à hauteur d'enfant, absolument.
Ouais, tout à fait. C'est Mélissa Mathieu qui réalise les illustrations de vos trois albums. Qu'est-ce qu'elles apportent, d'après vous, ces illustrations?
La vie à mon texte, la vie à mes mots. Et je suis tellement reconnaissante pour Mélissa Mathieu parce que quand je me suis lancée dans le projet, j'ai dit, Mélissa, je sais que tu n'as pas grandi à Montréal-Nord. Viens avec moi, viens que je te montre où j'ai grandi. Viens visiter ma rue. On est même allé derrière l'immeuble où j'ai grandi pour qu'elle puisse voir l'arbre là, dont on parle dans Lily Rose, la rencontre. Donc, elle a donné vie, puis elle a su capter l'essence même de l'imaginaire de l'enfance qui règne encore dans le livre.
Oui, il y a toutes les couleurs.
Les couleurs, elles sont vives. Les personnages sont beaux. J'aime bien l'esthétique qu'elle a utilisée. Puis, ces dessins-là, c'est fait quand même avec son pinceau sur sa tablette. Ça, j'aime ça le dire. J'aime ça le dire aux enfants. C'est numérique. Donc, c'est cette vie-là, cette lumière, et puis la beauté qu'elle met sur les enfants et sur les lieux.
Ah, wow! Et si les auditeurs veulent se procurer vos albums de Lily Rose, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
En librairie, donc la librairie Racine, bien sûr, à mes livres. Il y a la librairie Asselin, qui a été la première librairie. Moi, je suis allée en tant qu'enfant, qui les a aussi. Renaud Bré aussi les a. Sinon, je dirais, faites la demande et les libraires vont me contacter. Et bien sûr, sur mon site web www.gdesrosiers.com. Vous pouvez les avoir avec même une petite signature et un petit mot si vous le désirez.
Oui, parce qu'effectivement, on peut les commander sur votre site. Il y a un formulaire de commande.
Oui, absolument.
Et sur le site de l'émission, on va mettre les liens pour ça. Et sur votre site, on va en parler justement. On peut lire que votre philosophie d'entreprise, c'est croire, comprendre, créer. Pourquoi ces trois C spécifiquement?
Ces trois C-là, je pense que croire, c'est vraiment un état d'esprit pour moi. Tout d'abord, c'est croire que c'est possible, croire qu'on peut le faire. Que ce soit le projet Lily Rose en soi, qui est pour moi un projet de vie, que ce soit dans l'accompagnement que je fais aussi avec les adultes, les jeunes. Donc, c'est l'état d'esprit dans lequel je suis puis que j'essaie d'amener les gens. Ensuite, comprendre, parce qu'il faut prendre le temps de comprendre la situation, mais comprendre les gens qui sont autour de nous, comprendre les gens avec qui on travaille pour amener à bout le projet ou peu importe ce qu'on décide de faire et créer, bien, parce qu'on est en création permanente et c'est l'aboutissement finalement de se croire, comprendre. C'est la création qui arrive.
Donc, la confiance, c'est un quatrième C qu'on pourrait ajouter.
Oh, confiance, c'est pas un verbe, j'aime ça.
C'est un nom.
Est-ce que ça pourrait être une addition? Donc, je crois, je comprends. J'ai confiance que tout ça va se réaliser. J'adore.
Vous offrez des conférences, de l'accompagnement scolaire, des formations en milieu pluriethnique et plurilingue.
Oui.
Qu'est-ce qu'ils vous disent, les enfants, dans ces milieux? Est-ce qu'ils se reconnaissent dans l'offre culturelle, littéraire, médiatique qui leur est faite?
Je crois qu'il y a beaucoup d'enfants, justement. Ce matin, j'ai rencontré une petite qui m'a dit qu'elle a lu le livre puis elle est venue me serrer dans ses bras. Et oui, je pense que les enfants se reconnaissent à travers les histoires, à travers les personnages. Hein. Lily Rose, c'est quand même une petite fille noire. Puis avant, on en voyait beaucoup moins des personnages de la diversité culturelle. Donc, il y en a beaucoup plus et c'est tant mieux. Mais les enfants se voient. Et même les enfants qui se voient pas nécessairement dans le personnage de Lily physiquement, à travers les activités, à travers les réactions, ils se voient. Et si les enfants ne se voient pas, mais moi, j'ouvre la discussion. Par rapport à ce que Lily peut vivre, par rapport à ce qu'ils vivent. Puis mon intention, c'est toujours de permettre aux enfants, à travers les échanges, de se rencontrer sur le pont avec ce qu'ils ont comme bagage.
OK. Alors, vous contribuez à faire en sorte que les enfants, les petits, se reconnaissent davantage. OK. Le 28 février dernier, vous participiez à la cérémonie de remise des prix des libraires, catégorie jeunesse, à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. Les auditeurs et les auditrices vont d'ailleurs pouvoir trouver les noms des lauréats sur le site de l'émission. Vous y étiez.
Oui.
Avec l'ambassadrice, la comédienne Sophie Cadieux.
Quand même.
Le comédien Jules Ronfard et l'autrice qui était en, l'autrice en résidence, Chloé Varin. Et vous, vous y étiez à titre d'autrice, actrice à Montréal-Nord.
Oui.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet événement-là? Qu'est-ce que vous en retirez personnellement?
C'est un événement qui est extraordinaire et je dois dire que c'est la première fois que je participais. Je suis arrivée très tôt pour prendre un peu le pouls, je dirais, des lieux. J'ai énormément apprécié. Puis j'avais encore une fois plusieurs postures. Moi, je suis rentrée là, j'étais, je connais la salle, mais la façon dont c'était décoré, je suis rentrée dans l'univers d'enfants que j'aimais. De voir les auteurs, de les entendre lire. En fait, il y avait des comédiens qui lisaient les oui. textes d'auteurs. Moi, ça a égayé mon cœur d'enfant. En tant qu'enseignante aussi, de voir ces gens-là qui pensent, qui réfléchissent à ces textes hein, qui nous impressionnent. Et ouais, je dirais...
Il y avait des classes à ce matin.
Oui, il y avait des classes.
Pas ce matin, mais le 28
oui.
février.
Oui, il y avait tout à fait des classes. Donc, les enfants étaient très réactifs. C'était fait pour les enfants. En fait, c'était pour le...
C'est le public dirais, cible. Hein?
Oui. Exactement, c'est le public cible. Mais les enfants étaient là, ils étaient présents. Ils ont bien répondu, je dirais. Et il y avait aussi cet aspect-là d'être une nouvelle autrice, puisque ça fait 3 ans, mm-hmm. finalement, que mes œuvres sont publiées. D'être près de mes pères, de les voir, de les rencontrer. Moi, ça m'a fait du bien aussi. Ça m'encourage à continuer à écrire. Il y a Mme Mérola qui était là, qui a dit que ça fait 30 ans. Caroline Mérola, exactement, oui. que ça fait 30 ans qu'elle écrit et qu'elle a encore ce plaisir-là d'écrire. Puis, quand je vois ça, je me dis, mais Guédeline, il y a de l'espoir. Toi, oui. ça fait juste 3 ans.
Il y a de la place
encore. Donc, j'étais charmée par le moment.
Oui.
À revivre, je dirais.
Et puis, ça revient chaque année, alors. On se le souhaite.
Oui, on se
ça
le
change,
souhaite.
Ça, il déménage de librairie, mais quand
oui.
même. Si on vous en donnait le pouvoir, Guédeline, oui. qu'est-ce que vous voudriez améliorer dans le monde de la littérature jeunesse?
Oh, ce que j'aimerais améliorer, je pense qu'on s'en va vers là. Peut-être 2 éléments. Je voudrais que plus d'enfants puissent se voir. Je voudrais que les enfants puissent se voir davantage. Et je voudrais que l'accès aux livres soit disponible pour tous et partout.
Oui.
Oui.
Donc, une question de prix, une question de... Même dans les régions.
Dans
aussi,
les régions, ben, oui. J'ai eu la chance de faire la caravane littéraire
ouais.
pour le Salon du livre de l'Outaouais et la vague d'amour que j'ai reçue par les enseignants, par les éducatrices en garderie, mais on est aussi allé en CHSLD.
Ouais.
Donc, le fait de rencontrer les gens, de leur donner accès aux livres, puis d'aller à leur rencontre, là, c'est merveilleux. Donc, vraiment, l'accès et la représentativité dans les livres.
On se souhaite ça.
On se le souhaite.
Guédeline, c'est la tradition à Images et mots à voix haute. On demande aux invités de nous proposer un de leurs coups de cœur littéraire jeunesse.
Oui.
En terminant,
oui.
est-ce que vous avez une suggestion pour nous?
Oui.
On va fouiller ça. Un instant. On se penche.
On se penche.
On cherche.
Alors, je l'ai sorti.
Oui.
C'est une collection de 2 livres. Ça s'appelle « Une fille comme toi et un garçon comme toi » par Frank Mary, Kayla Aaron et Olivier Lebleu. Et c'est de la maison d'édition Tutti Story. Donc, c'est des livres qui parlent un peu de la différence des enfants, mais qui sont beaux tels qu'ils sont, qui les encouragent à être... à être tout ce qu'ils sont aussi, mais d'être dans l'empathie, dans l'appréciation de l'autre. Donc, pour moi, c'est des livres que j'utilise pour faire sortir le meilleur des enfants et puis de porter le regard, pas seulement sur soi, mais sur l'autre aussi.
Ah,
exactement.
Donc, l'ouverture.
Pour l'ouverture, tout à fait. Puis, c'est des livres qui se lisent, là, autant pour les plus petits que pour les plus grands au primaire.
D'accord. On va prendre ça en note. Et puis, on va pouvoir... les auditeurs vont les trouver sur le site de l'émission. Je vous remercie, Guédeline Desrosiers. Merci pour votre implication, pour votre créativité. Merci pour le modèle positif que vous proposez aux plus petits de votre communauté et aux enfants tout court, toute communauté ouverte.
Confondue. Oui. En fait, on parle d'enfants.
Oui, c'est
ça. On parle d'abord d'enfants, puis après ça, ils ont chacun leur spécificité, mais on parle d'enfants. Voilà.
C'est un grand plaisir de vous recevoir.
Merci beaucoup pour
Merci.
Cette belle entrevue.
Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Lily et j'aime beaucoup l'auteur Christian Alsberg parce qu'il fait beaucoup de livres d'aventure et j'aime vraiment ça parce que ça me met comme dans le livre parce que c'est comme si l'aventure rentrait dans moi.
La chronique coup de cœur des libraires.
On accueille maintenant Virginia Hull, libraire jeunesse à la librairie Le Repère, située à Grimby. Bonjour Virginia.
Bonjour.
On vous retrouve cette année, Virginia, avec grand plaisir. Vos suggestions sont toujours pertinentes et adaptées. Il y a le printemps qui arrive bientôt, enfin, on l'espère.
Oui. Là.
Et vous nous parlez de livres qui abordent les thèmes de la flore, la forêt, la nature. On vous écoute, Virginia.
Oui, alors, ben, j'ai évidemment été inspirée par les journées qui allongent, l'approche du printemps. Et le premier album dont je veux parler, ça s'appelle Marguerite. Il est écrit par Melanie Brown et illustré par Sarah Gillingham. Les illustrations sont simples, les couleurs sont attrayantes. Moi, j'aime beaucoup le fluo. J'ai été servie dans cet album-là.
Oui.
D'ailleurs, j'ai été attirée d'abord par les illustrations. Ensuite, il y a l'histoire. Il y a Marguerite qui vient d'éclore dans un jardin et elle découvre ses voisines, d'autres fleurs, et elle apprend qu'elle est considérée comme une mauvaise herbe, oh, une indésirable. Oh. Fait qu'elle est vraiment triste de ça.
Mais oui.
Puis, au fil de ses rencontres, bien, elle va rencontrer d'autres fleurs qui dérangent, comme le trèfle ou le pissenlit. Mm-hmm. Puis, c'est un livre un peu sur l'estime de soi, sur les étiquettes aussi qu'on met sur les jambes. Là, dans ce cas-ci, c'est les fleurs. Puis, on apprend en fait sur les fleurs sauvages, les fines herbes, les différentes plantes. Puis, on apprend que peu importe si on les considère comme indésirables ou non, mais ils sont tous utiles dans la nature. Mmh. Fait, c'est vraiment un bel album, c'est court. À partir de 4 ans, là, tout va bien.
OK, super.
Alors, je poursuis avec Gervais et Conrad, par Iris Boudreau. J'ai vraiment aimé cet album. En fait, j'ai un album, mais c'est une bande dessinée.
C'est une bande dessinée, hein, Gervais et Conrad, oui.
Et c'est aussi un documentaire. On apprend énormément de choses. C'est un peu, en fait, c'est l'histoire d'une cigale et d'une fourmi. Alors, c'est la fable qui est revisitée. Et la cigale va demander de l'aide de son voisin. Et Conrad va accepter d'héberger son ami Gervais. Mais il va lui dire, au printemps, moi, je vais te montrer comment... je vais t'apprendre, en fait, tout sur les plantes, puis tu vas devenir autonome et pouvoir t'occuper de tes choses pour l'hiver prochain. Okay. Alors, on apprend évidemment plein de choses. C'est très, très drôle. Iris Boudreau, c'est toujours drôle. Oui. Ça se lit aussi bien à voix haute qu'un album. C'est ce qui est intéressant. Puis, on apprend plein de choses, à faire un herbier, entre autres, une soupe aux orties, mais surtout, on rit beaucoup.
Okay.
C'est un peu plus costaud, si on veut, qu'un Marguerite. Ça se lit bien là, pour les enfants de 7 ans et plus, deuxième, troisième cycle.
OK, c'est bon.
Je poursuis aussi, aussi avec Notre Chimite. Je dirais qu'ils vont très bien ensemble, Gervais et Conrad et Notre Chimite. En fait, ceux qui aiment les illustrations d'Élise Gravel vont tout de suite reconnaître son style. C'est elle qui a illustré l'album. Cette fois-ci, elle ne l'écrit pas. C'est Mélissa Molène Dupuis qui l'écrit. Mélissa Molène qui est de la nation Innu. Mm-hmm. Et petite parenthèse, elle habite aussi à Granby, donc on la voit souvent à la librairie.
Oui, on la salue. Ah oui.
Oui. Dans l'album, on suit Mélissa qui partage ses connaissances de la forêt, la faune, la flore. On apprend plein de choses sur la relation des peuples autochtones avec la nature, sur leur savoir, les légendes. Puis, comme dans Gervais et Conrad, il y a des activités qui sont proposées, comme faire de la bannique ou un cornet de bouleau, par exemple. Puis, Mélissa nous introduit aussi à la langue Inuit-Moon. Alors, c'est un album très chouette pour les 6 ans et plus.
Ah, ça, on apprend beaucoup de choses. Ça, c'est vraiment génial.
Oui. Mm-hmm. Oui.
En quatrième.
Oui, alors c'est l'album, ça fait pas trop longtemps que je l'ai lu, c'est Planète Forêt par Benoît Archambault. Céleste va passer l'été chez son grand-père Robert, puis elle est un petit peu inquiète de pas avoir ses amis ou la télévision, mais son grand-père va lui faire découvrir sa forêt avec tout ce qu'elle contient. Et comme dans Gervais Conrad, on apprend à faire un herbier.
Aussi,
Céleste, elle, l'herbier va devenir aussi une collection de souvenirs de son été. Mm. Puis dans cet album, moi, c'est vraiment les illustrations qui m'ont happé. Marie-Ève Turgeon fait un travail incroyable. C'est d'une grande beauté avec tous les petits détails. C'est très, très beau.
Ah oui, ça c'est bien. Puis c'est Benoît Archambault de la famille artistique.
Oui.
Archambault, là, Stéphane et...
du groupe Mes Aïeux.
Oui, c'est ça, hein? Oui, ah, donc,
oui, exactement.
Parfait. Excellent. Est-ce que vous avez encore d'autres suggestions à nous faire? Il nous reste un peu plus d'une minute, Virginia.
Bien, il y a les documentaires pour remporter de la collection Bayard qui sont écrits par Réa Dufresne.
Oui, que, Réa, qu'on a reçu
tu
récemment.
As reçu,
oui.
Cet automne.
Oui.
Puis, il y a Nature à goûter, entre autres, qui peut être dans la même veine ou forêt, traces d'animaux. En fait, ce sont des petits albums qu'on peut insérer dans un sac à dos puis qui nous suivent là, dans une journée
en randonnée.
Quand on va faire des découvertes de la nature.
Ah oui, c'est génial ces livres-là. D'accord. Vous aviez aussi peut-être l'idée de glisser un petit mot sur un petit roman? En terminant?
Oui, il y a un nouveau roman pour les premiers lecteurs qui s'est écrit par Prisca Poirier et édité à La Bagnole. Ça s'appelle « Les brins
ouais. ».
Il y a deux tombes qui sont sorties. C'est vraiment génial. C'est des petites créatures qui sont dans la forêt, puis ils protègent l'équilibre de la nature. Puis ils travaillent à régler les problèmes sur les changements climatiques.
C'est vraiment chouette comme
roman.
Ah, bien merci. Oui. On rappelle, Virginia, que les auditeurs vont trouver les références à propos de tous les livres dont vous nous avez parlé sur le site de l'émission. Je vous remercie énormément, Virginia Houle.
Ça
au plaisir d'une prochaine rencontre. Au revoir.
Oui, au revoir.
Je m'appelle Naila, j'ai 11 ans. J'aime le livre Un bon exemple de détermination de Terry Fox parce que c'est intéressant et ça me touche beaucoup.
Les actuels littéraires.
Encore quelques idées de lecture et de sortie littéraire. Pour tous les liens, c'est sur le site de l'émission. Dimanche prochain, le 17 mars, à Marie raconte, je lis La Louve et l'Enfant de Stéphanie Boyer, illustré par Laura Vandal, publié chez Soulière, éditeur. Dans ce livre tout en poésie, l'autrice imagine comment la relation qui se tisse entre deux êtres parvient à transformer le cours d'une histoire bien connue. Une histoire de loup et de petite fille au capuchon rouge. Vous devinez laquelle? On en écoute un extrait. La rencontre. Dans les bois, les buissons tressautent. Leurs branches s'agitent, leurs feuilles se froissent. L'écureuil et l'oiseau regardent l'enfant et la louve qui en surgissent, l'une devant l'autre. Un long moment passe sans que personne ose parler ni bouger. C'est la petite louve qui rompt le silence. « Bonjour, » dit-elle avec la voix qui tremble. L'enfant répond « en serrant son foulard entre ses doigts, tu peux parler. » Le 16 mars, de 11h à 17h, ce sera la première édition du Salon du livre des Laurentides au Centre culturel et communautaire Thérèse de Blainville, salle Lions Optimiste, J.L. Blanchard, 120 boulevard du Séminaire à Sainte-Thérèse. Du 21 au 24 mars, se tiendra la 36e édition du Salon du livre de Trois-Rivières à l'Hôtel Delta, au 1620 rue Notre-Dame-Centre, à Trois-Rivières. Également du 21 au 24 mars, aura lieu la 2e édition du Salon du livre des Francophonies de Niagara à l'École des beaux-arts Marilyn A. Walker à l'Université Brock à Sainte-Catherine's. Du 22 au 24 mars, ce sera la première édition du Salon du livre indépendant de Verdun. Alors, vous trouverez là des auteurs, des autrices indépendants, indépendantes, auto-publiés, des petites maisons d'édition et des maisons d'édition méconnues. C'est au sous-sol de l'église Notre-Dame de Lourdes, au 630 4e Avenue, à Verdun. Métropolis Bleue, via le projet Simplement Magnifique, démontre que la littérature jeunesse n'a pas de frontières régionales. 6 auteurs, dont Roxane Turcotte des Laurentides et Valérie Fontaine de la Montérégie, y proposent des textes inspirants. Pour lire et entendre les textes, vous allez sur le lien qui est sur notre site. En terminant, quelques mots pour vous dire que vous trouverez sur notre site aussi les titres et les noms des lauréats du prix des libraires jeunesse dans les 8 catégories d'âge, Québec et hors Québec.
Je m'appelle Clara, j'ai 7 ans. J'aime me faire lire des histoires parce que ça me fait du bien.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs d'aujourd'hui, Marie-Germain et ses élèves de 6e année, Léo Moffat, Laetitia Épard, Margot Cabana et Joëlie Diouf, Raphaël Bayarjon, qui a occupé la première tribune littéraire, l'autrice conférencière, formatrice et entrepreneur Guédeline Desrosiers, Virginia Houle de la librairie Le Repère, Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie au montage et à la mise en onde, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes et on se retrouve, je le souhaite, dans 2 semaines.